J'ai le plaisir d'ouvrir cette série que, avec Frédéric Croulet, nous avons intitulée Histoire sainte pour adultes ou Histoire sainte pour grandes personnes, je ne sais plus bien. Alors que depuis de nombreuses années, nous poursuivons une sorte de catéchèse informelle qui aborde les grandes questions théologiques et qui permettent de mettre en évidence l'éclairage réciproque de la foi et de la raison. Cette année, nous avons choisi de nous consacrer à des figures de l'histoire sainte. Il faut peut-être en expliquer la raison de ce choix qui est fondamental. C'est que la foi chrétienne est une foi qui passe par des récits, par des histoires. On peut bien sûr en développer une théologie et on ne s'en prive pas et on a bien raison de le faire. On peut élaborer un dictionnaire théologique suffisamment savant et éclairant. Mais la foi est une réalité qui passe par la vie des hommes. Et il était bon que cette année, nous nous avisions de montrer que ça n'est pas l'application de principes de théologie qui seraient écrits depuis toujours et qu'il faudrait décliner à mesure que l'histoire avance. Mais donc, il s'agit de récits, c'est-à-dire d'événements qui auraient pu se passer autrement. Une histoire, c'est quelque chose qui aurait pu se passer autrement. Et parce que ça veut dire que la liberté est en proie à une certaine contingence et que donc, il faut se garder de penser qu'il y a une révélation qui serait programmée à la manière d'un scénario pré-rédigé. Il faut se garder encore plus de penser que cette révélation serait programmée à la manière d'une grande dissertation. Souvent, c'est ce qu'on pense au fond. Il y aurait une grande dissertation, une première partie, deuxième partie, troisième partie, conclusion. Et c'est quelque chose qui aurait pu se passer autrement. Une parole qui aurait pu obtenir une autre réponse, car cette révélation, elle se donne donc à travers les cœurs et les courages et la foi d'êtres qui ont apporté à l'appel de Dieu une réponse singulière, dont nous sommes les héritiers, non pas simplement au sens où nous devrions commémorer leur histoire, en nous rappelant qu'avant nous, il y en a eu des grands, et puis on se raconte leurs exploits ou leurs misères. Il ne s'agit pas simplement de commémorer des événements passés, mais à travers le récit de ces événements, il s'agit aussi pour chacun de se mettre en disposition de répondre à son tour. Et pas simplement de rapporter quelque chose de passé. Une histoire, c'est quelque chose qui aurait pu se passer autrement, même l'histoire d'Adam peut-être. Et puis c'est quelque chose que l'on se raconte parce que en la racontant on se resitue dans ce récit, on fait sien ce récit et on est renouvelé soi-même dans sa liberté par la rencontre de telle ou telle figure, par la perception de tel ou tel événement. C'est donc ce qui justifie que nous ayons choisi cette année de proposer une formation théologique modeste. Enfin, pour ma part, la part de Frédéric, c'était une formation théologique compétente. et pleine d'autorité. Donc une formation théologique modeste qui passe à travers donc ce que l'on appelle l'histoire sainte. Vous avez remarqué que est-ce le résultat d'un repas trop bien arrosé ? Je ne sais, nous nous sommes crus autorisés à faire un peu d'humour. Ça n'a pas grand sens, peut-être, si ce n'est que nous vivons dans une époque où il faut sans cesse s'excuser d'être sérieux, donc on est sans cesse obligé de faire rigoler. Donc à notre tour, nous avons adopté ce parti. Mais aussi, je pense que cet humour renvoie aussi au sens de ce qu'est un récit. Je dis donc un récit, c'est quelque chose qui aurait pu se passer autrement. Une histoire, c'est quelque chose qui aurait pu se passer autrement. Et qui met en jeu donc la rencontre de l'absolu et du relatif. Or, l'humour, c'est bien la perception de notre relativité. Et en cela, on peut voir dans la Bible des passages qui ne sont pas sans humour. La Bible, nous le verrons, est un récit plein de sang, de sexe, d'or et de pouvoir. Et c'est un récit haut en couleur et dans lequel donc l'humour ne manque pas. Nous nous mettons donc ce soir en présence de la première figure que la Bible nous propose, qui est celle d'Adam. Alors j'aurai l'occasion de rappeler que Adam n'est pas un nom, que Adam signifie simplement l'homme. L'homme au sens du terreux, de celui qui est fait de terre, exactement d'ailleurs comme homme en français signifie celui qui est fait de terre, puisque c'est la même racine que humus. Et donc, parler d'un homme, c'est se mettre en présence de sa condition terrestre et charnelle. Il est sans doute également significatif que nous ayons choisi de commencer par Adam. Parce que vous êtes sans doute informé qu'il y eut, dans les dernières décennies, des débats autour de la catéchèse, avec des fruits plus ou moins amers. Et un de ces débats autour de la catéchèse était « Par quoi faut-il commencer ? Est-il bon de commencer par la création ?» qui semble nous plonger d'emblée dans une dimension mythique, et puis nous mettre dangereusement en compétition avec le savoir que la science nous donne actuellement. Alors un bon nombre d'autorités disaient avec des arguments fondés que plutôt que de commencer par la création, il faut commencer par la libération du peuple d'Égypte. Parce que là, c'est vraiment l'événement historique inaugural. C'est l'aventure humaine qui commence vraiment, et les récits de la Genèse et les récits des patriarches ne viendraient qu'après ce premier élan historique pour nourrir de sens cette aventure. Et donc une catéchèse qui commencerait par le récit de la fuite de l'Égypte, de la libération d'Égypte, donnerait vraiment, de ce point de vue, le sens de la Pâque, de l'espérance, de l'attente du salut pour un peuple qui échappe à l'oppression. Toutefois, il a toujours paru important à l'Église de commencer par la création. D'ailleurs, le credo commence par la création. Et pourquoi a-t-il toujours paru important à l'Église de commencer par la création ? Eh bien parce que l'histoire humaine, l'histoire des peuples, des régimes que l'on peut reconnaître effectivement dans le rapport d'Israël et de l'Égypte, demande aussi à être fondée dans l'histoire du monde. Et qu'il importe de penser que le rapport de l'homme à Dieu est un rapport de création. C'est ce que je vais développer ce soir, ce que je vais essayer de développer ce soir avec vous. Pourquoi est-il si important de penser que le rapport de l'homme à Dieu est le rapport à son créateur? Alors nous allons commencer par lire quelques versets. J'imagine bien connus, mais il vaut mieux que nous les ayons en commun. Pour commencer, il faut commencer par le premier verset, par la première note, la note solennelle, celle qui nous ouvre les yeux sur un premier matin et nous remplit d'emblée d'émerveillement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Comme on appartient à une espèce un peu pressée, enfin en tout cas pour ma part, on se porte d'emblée au verset 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Dieu dit, « Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences. Ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. » Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Vous le savez, ce récit s'achève sur le repos sabbatique du Créateur qui contemple sa création. Et puis, curieusement, il reprend la création de l'homme au chapitre 2. Donc là, nous terminons le chapitre 1. Et le chapitre 2 nous remet devant un autre, nous met devant un autre récit, apparemment, de la création de l'homme. Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors, Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait modelé. Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait pour former quatre bras. Yahvé Dieu prit l'homme, l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Yahvé Dieu fit à l'homme ce commandement, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. » On continue. Yahvé Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Il modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel et les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages. Mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors, Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. » J'arrêterai ma lecture ici. Ça nous donne déjà pas mal de choses à méditer. Alors, la première idée qu'il faut que je voudrais souligner, c'est donc l'idée de la création au commencement, l'idée du commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Il ne faut pas penser que l'idée de création soit familière à l'humanité. Il ne faut pas penser « Depuis toujours, les hommes ont pensé qu'il y avait un Dieu qui avait créé le monde. » Non, non. Il n'y a que, dans la tradition biblique, que la création apparaît, à strictement parler. Dans les autres récits mythiques, on a des théogonies, des cosmogonies, qui sont généralement pleines de meurtres, de sang, de transgressions épouvantables. Ouranos qui se précipite sur la terre, la viole et la terre pour se débarrasser des assiduités déplacées d'Ouranos, le fait émasculé par son fils qui jette ses testicules dans le monde. Enfin, il y a de l'ambiance. Et vous prenez tous les grands récits mythiques, ils sont justement caractérisés par la coïncidence de la violence et du commencement. Ici, on a au contraire un récit qui nous ouvre à la contemplation, nous ouvre à l'émerveillement. Il dit même ce récit quelque chose de tout à fait étonnant. Dieu vit que cela était bon. Manifestement, ce n'est pas ce que nous voyons. Et donc cette création, elle commence par la beauté, manifestée par exemple dans la nudité d'Adam et Ève, enfin, de l'homme et de la femme. Et donc cette création, on commence par affirmer qu'elle est toute entière bonne, en elle il n'y a rien de mal. C'est essentiel pour notre rencontre de ce soir et pour toute la suite, parce que cela signifie que dans la perspective de la révélation, il n'y a de mal que de la liberté. Il n'y a de mal que de l'homme. Ce n'est pas les choses qui sont mauvaises, ce n'est pas la matière qui est mauvaise, ce n'est pas la matière qui a résisté, ce n'est pas le sexe qui nous emporte à des délires, ce n'est pas la jalousie qui nous entraîne dans des vengeances sanglantes. Le monde est affirmé comme bon. C'est-à-dire que les premières phrases de la création nous ouvrent au salut. Tout se passe comme si, et il faut le dire, le salut précède la faute. Il n'y a de faute d'ailleurs que parce que le salut précède. Il n'y a de faute que parce que une grâce est d'abord donnée, une beauté est d'abord donnée qui va être trahie, pervertie, oubliée. Si le mal était dans l'ordre des choses, si le mal venait de la matière, de la résistance des objets, des obstacles. Au fond, il n'y aurait pas de mal fondamental. Voilà pourquoi il importe de commencer par un récit, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui aurait pu se passer autrement et qui naît, qui est l'écho de la liberté. Il n'y a de mal que par la présence de la liberté. Quand les philosophes, quand le divin Platon envisage un démiurge, c'est-à-dire un artisan originel, ce démiurge, Platon, pour la première fois peut-être dans l'humanité, affirme « Dieu est bon ». C'est un cri formidable dans le Timée. Mais ce Dieu qui est bon ne fait que le monde autant qu'il le peut. La matière résiste, il y a des causalités informelles et impures, il y a une cause errante qu'il domestique autant qu'il le peut en refermant les cercles du monde de tout son pouvoir. Mais enfin, il y a un principe du mal, c'est l'antériorité de la matière. D'où l'importance, dans la méditation de ce texte de la création, de l'affirmation qui ne trouvera pleinement son expression que dans le livre des Maccabées, c'est-à-dire vraiment dans le dernier livre de l'Ancien Testament, d'où l'importance dans cette méditation de la création, de la création ex nihilo, à partir de rien. Parce que affirmer que la création est à partir de rien, c'est précisément se mettre devant la bonté absolue de cette création. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de matière impure, récalcitrante, parmi laquelle il faudrait se frayer un chemin. Et donc les deux affirmations, la création est à partir de rien, c'est-à-dire qu'elle est un don, et la création est entièrement bonne, sont solidaires. Ça a été d'ailleurs une réflexion longue et pas toujours évidente chez les penseurs chrétiens que d'en venir à la conviction que la matière même a été créée et que donc la matière n'est pas le principe du mal par sa finitude. Le mal n'est pas la finitude. Le mal n'est pas la finitude, d'autant plus que cette création, premièrement, donc, elle est entière, deuxièmement, elle est bonne, et troisièmement, elle est autre. Elle n'est pas divine, elle n'est pas Dieu. Parce que ça serait une autre version, c'est une autre version que les philosophes et les mythologies ont adoptée, d'en venir à l'idée panthéiste, à travers des formes plus ou moins poétiques ou plus ou moins contemplatives, que le monde est Dieu, que les énergies du monde sont Dieu se déployant à travers la floraison et la course des bêtes sauvages. Dieu créa le ciel et la terre, Dieu créa l'homme, etc., les plantes, et tout ça, signifie aussi l'altérité de cette création. Il faut donc parvenir à penser que la création est autre que Dieu et que pour autant elle n'est pas mauvaise. Parce qu'on peut se dire, si elle est autre que Dieu, elle est ce qui va lui résister, ce qui va lui faire obstacle, etc. Et c'est un enjeu fondamental de la foi chrétienne que d'affirmer l'altérité du monde sans que cette altérité soit, pour jouer sur les mots, une altération, sans que cette altérité soit une déchéance morale ou ontologique. Donc voilà, cette création, elle est donc bonne, autre et tout entière. Et c'est ce qui nous permet donc de commencer par la contemplation de cette beauté du monde dans laquelle apparaît l'homme, donc, puisque Adam, ça signifie l'homme. En quelque sorte, en réalité, la création est le premier et le seul miracle. Si un miracle, c'est l'œuvre de Dieu, rebattant ou maîtrisant les lois inscrites dans le monde physique, eh bien, la création est le premier miracle auquel il faut sans cesse revenir et qui signifie donc la place de l'homme dans cet univers. En effet, cette création, elle est autre, puisqu'elle est autre, elle n'est pas divine. Donc un des enjeux du texte, par rapport à toutes les autres mythologies comparables et comparées, un des enjeux du texte, c'est de désacraliser le monde. Si Dieu a créé le soleil et la lune, c'est que le soleil et la lune ne sont pas divins. Si Dieu a créé les bêtes sauvages, c'est que les bêtes sauvages ne sont pas divines. Et que donc, ces réalités, sans doute, sont dignes de respect, mais non pas de vénération. Et que l'homme, dans cette création, est émancipé de ses terreurs primitives face à la nuit et au jour, face au soleil et à la lune, face aux éléments de la nature. Dans la perspective biblique, la nature n'est pas notre mère. D'ailleurs, la mère nature est généralement une marâtre envahissante et englobante. La nature n'est pas notre mère, elle est notre sœur. Comme le dit très bien le cantique de François d'Assise. Mon frère le soleil, ma sœur la pluie, etc. Donc une sœur, ça se respecte. Mais ça ne se vénère pas et je ne vais pas offrir à ma sœur des sacrifices d'expiation à ses pieds. L'enjeu du texte n'est donc pas, on y vient peu à peu, de nous expliquer, encore que ce ne soit pas absent, de nous expliquer d'où vient le monde. L'enjeu, c'est bien la place de l'homme dans ce monde. Si on y parle de l'eau, de la terre, de la lumière, de la nuit, des poissons et des oiseaux, c'est pour pouvoir donc comprendre quelle est la place de l'homme dans cette création. Et là encore, le texte, par rapport à tous les textes philosophiques ou mythiques qui peuvent exister, vous n'en trouverez pas un qui dise cela. Le texte a l'originalité radicale de donner à l'homme une souveraineté sur cette création. Pas du tout la place d'un être démuni et exposé aux vicissitudes des ouragans. Non, on va le voir plus en détail, un berger de la création, un jardinier qui a une fonction royale dans cette création. C'est donc bien un texte qui a pour but de rendre compte de la condition humaine, s'inscrire dans l'histoire d'une liberté, manifester la place prééminente de cette liberté telle que la création ne peut être pensée que comme un don fait à l'homme. Il est bon de s'arrêter pour méditer et contempler cette idée que la création est un don fait à l'homme. Il est bon de le faire dans une société traversée d'un certain nombre de courants anti-humanistes qui disent pourvu que les baleines survivent, que nous importe que les hommes survivent, et qui, au fond, perçoivent l'homme comme une efflorescence hasardeuse des phénomènes cosmiques, mais qui n'aurait dans ce monde aucune place particulière ni souveraine, serait vouée à redevenir poussière de manière radicale une fois que cet univers sera retourné à la poussière par une entropie irréversible. Je crois qu'il est plus sérieux de se mettre devant le caractère étonnant de l'homme. Et donc le texte somptueux devant lequel nous sommes ce soir, que je suis heureux de partager avec vous, nous met devant le caractère étonnant, non pas des alligators et des hippopotames, qui sont pourtant assez étonnants, mais l'homme. Et étonnant pourquoi ? Eh bien parce que, vous voyez, il est capable de nommer ce monde, il est capable de le penser, il est capable de... Et ce même, la réplique définitive, comme toujours, a été donnée par Pascal, lorsqu'il évoque des philosophes qui veulent ramener l'homme aux bêtes et dire l'homme est de peu d'importance dans le monde. Et Pascal montre que ceux mêmes qui ramènent les hommes aux bêtes veulent en être félicités. Et par là même, leur vanité se montre plus profonde que leur raison. Parce qu'il faudrait au fond pouvoir rendre compte du fait que dans ce cosmos muet, il y a quelqu'un qui veut se comprendre, qui veut comprendre, qui est capable de le transformer, d'aboyer d'une petite voix dans ce cosmos pour avoir la prétention, l'outrecuidance de le comprendre. Et c'est précisément ce que le texte est en train de faire. Le texte illustre sa propre démarche puisqu'il déploie un monde qui se donne à comprendre précisément pour celui qui est souverain, parce que dans cette création, il a la place royale de celui qui nomme, de celui pour qui ce monde est à sens. C'est donc pas un texte sur les étoiles, c'est un texte sur les étoiles, mais c'est fondamentalement un texte qui a pour but de comprendre la place de l'homme. Regardons ce qui est dit donc de cet homme. Je relis. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. La première affirmation, c'est l'homme est image de Dieu. Qu'est-ce qu'une image ? Une image, c'est une réalité dont la vérité n'advient que si elle est reconduite à son modèle. Donc l'image m'invite à aller d'elle-même à son modèle. Donc si je regarde une image, je serais sot de m'arrêter à l'image, sauf un esthète. Et donc le signe de Dieu dans la création, ce n'est pas les oiseaux, ce n'est pas les arbres qui fleurissent au printemps, le signe de Dieu dans la création, c'est l'homme. Là encore, c'est Pascal qui l'a dit. On ne remontera pas des petits oiseaux à Dieu. Bon, ça peut toujours servir, mais s'il y a une attestation de la présence divine dans la nature, ce n'est pas la beauté des oiseaux et des fleurs, c'est la beauté de l'homme. Enfin, le caractère étonnant de l'homme, puisqu'il est seule image de Dieu. D'ailleurs, si une image devait être faite de Dieu, eh bien, on ne prendrait pas un caïman ou un éléphant, on prendrait un homme. Pour un chrétien, évidemment, l'idée est dans sa plénitude, dans le Christ, nouvel Adam, homme nouveau, en qui précisément l'image est parfaite. Et Et donc, si vous voulez savoir à quoi Dieu ressemble, regardez un homme, en quelque sorte. Et un homme et une femme. Oui, mais je vais y venir, merci. L'image exprime à la fois donc la participation à la vie divine et la dépendance de l'image à son modèle. Donc l'image ne peut pas prétendre à l'autosuffisance, ne peut pas prétendre se substituer à ce dont elle est l'image. Car l'image se substituant à ce dont elle est l'image, ça serait précisément l'idole. Et donc, s'il est inutile de façonner des idoles, c'est parce que la véritable image de Dieu circule dans nos rues, dans nos dispensaires, dans nos assemblées, et ici ce soir. Et donc, ça nous dispense d'avoir à élever des veaux d'or toutes sortes. D'autre part, je l'ai évoqué tout à l'heure, cet homme donc est présenté comme le berger de la création. Vous remarquez que cette création est présentée comme un jardin, paradis, Éden. Beaucoup de nos images ont darwinisé le récit de la Genèse en faisant se balader Adam et Ève à poil au milieu d'une savane dont les grandes herbes sauvent la pudeur. Mais Adam et l'homme et la femme ne sont pas dans une savane, ils sont dans un jardin. Et qu'est-ce qu'un jardin ? C'est un lieu clos, harmonieux, ordonné, est fait pour l'homme. Ce n'est pas un lieu sauvage, ce n'est pas un lieu inhospitalier. C'est même la plus belle image de l'humanité qui soit. C'est les jardins de nos cloîtres. Et c'est ce jardin que nos cloîtres, précisément, reconstituent. Mais même le plus modeste des jardiniers dans sa maison de campagne a l'impression de revivre quelque chose de ce lieu de paix, puisqu'un jardin, c'est un lieu clos, même du point de vue étymologique, et que c'est donc un lieu de prospérité, d'abondance et d'ordre. Un lieu pour l'homme, pas du tout, donc un lieu sauvage et inhospitalier. Enfin, cet homme, il est d'emblée homme et femme. Il est d'emblée homme et femme, c'est-à-dire que l'homme, ça n'est pas l'individu. C'est pourquoi il est bon de toujours se rappeler que Adam n'est pas dans un nom propre. Adam, ça veut dire l'homme. Ève, elle aura un nom propre après. Mais Adam n'a pas de nom propre, il est l'homme. Et l'homme, il est l'homme dans le lien aussi à autrui, c'est-à-dire qu'il y a une similitude entre la relation de l'homme à Dieu et la relation de l'homme et de la femme. Cette relation de l'homme et de la femme, à travers les deux récits, il en est dit, au fond, la même chose, car d'emblée, là aussi, ça devrait vous frapper si vous fréquentez les autres textes mythologiques que l'humanité a pondus, d'emblée, cet homme et cette femme sont présentés comme époux. Prenez toutes les autres mythologies. Ève aurait été la fille d'Adam, ou la sœur d'Adam. Et le monde aurait commencé par une transgression, comme c'est le cas dans les mythologies égyptiennes ou grecques, où si la femme sort du corps de l'homme, c'est qu'elle en est la sœur ou qu'elle en est la fille. Or là, le fait que la femme soit issue du corps de l'homme, n'en fait pas d'elle une prolongation du premier corps dans l'ordre génétique, mais en l'institut dans une altérité véritable, dans une dualité véritable. Ce qui est présenté comme initial, ça n'est pas la paternité, ça n'est pas la sororité, la fraternité. Ce qui est présenté comme initial, c'est le lien du mariage. Étonnant. C'est tellement vrai que lorsque, dans le deuxième récit, Adam s'exclame « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-là. » Le mot, j'ai lu ça dans les livres, je ne connais rien à l'hébreu. Rassurez-vous. Le mot utilisé dans le texte, c'est « isha » qui désigne la femme et « ich » qui désigne l'homme. Mais « isha » et « ich », c'est donc le mot de même racine et c'est l'époux et l'épouse. Ce n'est pas l'homme et la femme au sens anatomique du mot, mais au sens social. Enfin, le mot est inapproprié du mot. Et donc, avant qu'Ève ait eu un nom, car elle, à ce moment-là, elle n'a toujours pas de nom, elle est désignée comme l'épouse. Et là encore, enfin, il est scandaleux que... Bon, je ne m'énerve pas. Mais quand même, qu'on nous dise « Bon, c'est les récits de la création, il y en a plein dans l'humanité. » Mais c'est faux, mais c'est faux. Puisque là, on a bel et bien un texte qui fait commencer la relation humaine par la liberté. Pas par les fatalités du sang. On a des textes où l'homme et la femme sont divisés, par exemple dans Platon, le très beau récit d'Aristophane sur les androgynes. Mais lorsque l'homme et la femme sont séparés en sexe, puisque sexe, ça veut dire... coupure, c'est carré. Le sexe, c'est ce qui nous sépare. Lorsque l'homme et la femme sont scindés chez Platon, c'est une punition, c'est une sanction, c'est une fatalité, car il eût mieux valu rester androgyne et autosuffisant. Au contraire, l'image présentée par la Bible n'est absolument pas celle d'une autosuffisance dont on serait lésé, dont on serait privé à la suite d'une malédiction. Que l'autre soit différent et soit à distance de moi n'est pas fatalité, n'est pas violence, n'est pas malheur. Vrai, c'est une joie. Et là encore, le texte commence par une contemplation joyeuse au lieu de commencer par une fatalité sanglante. Alors que toutes les autres traditions nous mettent devant une fatalité sanglante. Or, vous le savez, le récit se prolonge par le récit de la chute que nous allons maintenant lire. Je suis au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait fait. Il dit à la femme, vous remarquez qu'il n'y a pas d'Ève, c'est la femme. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, donc il n'y a pas d'Ève, il n'y a pas de pomme. La femme vit, il n'y a pas non plus de... Bon, je ne m'énerve pas. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, son compagnon, comme on dit maintenant, et il mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent les pas de Yahvé Dieu qui se promenaient dans le jardin à la brise du jour. Donc on est vraiment bien dans un cloître. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahvé parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu appela l'homme. « Où es-tu » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit. « Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Yahvé Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. » Alors Yahvé Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages, tu marcheras sur le ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien, elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Et à la femme il dit, « Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils, ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. » À l'homme il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie, il produira pour toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs à la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain. » Jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. L'homme appela sa femme Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Yahvé Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. Puis Yahvé Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. Et Yahvé Dieu le renvoya du jardin pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden des chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dans ce jardin, il y a donc une loi. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Cette loi, comme le fait remarquer Kierkegaard, l'homme n'a aucun moyen de la comprendre. C'est comme si on lui disait, tu ne mangeras pas de bouzoum. Moi, je vais bien. Pas manger de bouzoum, mais... Et il n'a aucun moyen de comprendre, même la menace, si tu en manges, tu mourras. Il est donc en présence d'une consigne inintelligible pour lui, puisque précisément, il n'a pas la connaissance du bien et du mal. Et puisque précisément, il n'est pas fait pour la mort telle que nous la connaissons. Il faut donc, nous dit Kierkegaard à juste titre, concevoir Adam angoissé. Comme je serais angoissé d'une pure possibilité que je ne peux pas connaître. Tu ne mangeras pas de bouzoum. Vous vous rendez compte ? Quelle angoisse ! Et il faut donc imaginer Adam sans cesse et indéfiniment rebondissant de son angoisse dans la confiance. Car la seule issue qu'il y ait à cette angoisse, c'est la confiance en celui qui lui a donné la consigne. Quand je dis à mes enfants, mes petits-enfants maintenant, regarde bien ça, c'est de la belladone, tu n'en mangeras pas. Imaginez qu'ils se disent, le vieux, il veut garder ça pour lui. Ça doit être vachement bon. Et donc, comme ils ne savent pas ce que c'est que la belladone, moi non plus d'ailleurs, ils sont obligés sans cesse de se précipiter dans la confiance. Ou alors les petits couillons vont vouloir faire leurs propres expériences. Pourquoi cet arbre est-il l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? On peut le comprendre ainsi, c'est qu'au fond... Vouloir s'approprier la connaissance du bien et du mal, c'est rompre le lien d'obéissance. C'est rompre le lien de confiance en celui qui a donné la règle. Et donc, Adam sans la faute, Adam avant la faute, est sans cesse conduit à plonger dans la confiance en la parole qui lui fut donnée. C'est cette confiance que les insinuations du serpent vont rompre et en instaurant une rivalité entre l'image et son modèle, en instaurant une rivalité entre l'homme et Dieu. Vous avez remarqué que le texte nous dit « À son image, il les créa, homme et femme, il les créa. » Et que le serpent promet « Vous serez comme des dieux. » Donc le serpent leur promet ce qu'ils ont déjà. Ce texte est quand même génial. Donc on nous a déjà dit qu'ils ressemblaient à Dieu, et voilà-t-il pas que le serpent dit « Si vous mangez ce fruit, vous allez ressembler à Dieu. » Quelle est la différence? La différence, c'est que l'homme et la femme vont s'approprier le don. J'ai insisté, peut-être pas assez, sur le fait que la création est un don. Elle est autre, elle est gratuite, elle est belle, etc. Tout don comporte une loi, puisque tout don scelle un lien. Donc quand je fais un don, je scelle un lien. Donc quand je fais un don, si généreux soit-il, il comporte une loi en lui-même. Et la présence de l'arbre et la présence de la loi n'est pas autre chose que la conséquence nécessaire, inévitablement liée à l'existence d'un don. Et quelle est la loi que comporte tout don? C'est « tu ne t'approprieras pas le don, car les dons que nous recevons ne sont pas des propriétés. » Vous n'aimez pas que vos amis aillent revendre sur eBay les cadeaux que vous leur avez faits. Et traiter le don comme une propriété, c'est précisément ça, rompre le lien. Car le don ne consiste pas à donner un bien, mais un lien. D'ailleurs, l'objet du don, à la limite, importe peu, pourvu qu'il manifeste le lien. Et s'approprier le don, c'est rompre le lien. Un don, alors c'est pour ça que nos placards sont encombrés d'objets dont on attend impatiemment qu'ils se cassent, mais qui échappent au circuit marchand. Un don échappe au circuit marchand. Je ne peux pas le rendre. Je ferai offense à celui qui l'a fait. Tiens, je te rends ton cadeau. Bon, ça ne se fait pas. Je ne peux pas le revendre. Je peux faire une seule chose, à la rigueur. Je peux le transmettre. Mon enfant, ceci est un don de ton oncle. Et à ce moment-là, effectivement, le don ne peut pas s'échanger, mais il ne peut que se transmettre comme la vie. Comme la vie. Car nul ne peut rendre la vie à ses parents, mais il peut la transmettre. Donc voilà, la faute de l'homme et de la femme, c'est bel et bien de comprendre la loi comme une captation de puissance et de vouloir donc s'approprier le don. Vous prenez toutes les histoires de la Bible, c'est toujours la même chose. On le reverra avec David, on le reverra partout. Vous pouvez le voir dans l'histoire du fils dit prodigue, dont la seule faute est de vouloir s'approprier l'héritage. Alors qu'il y a droit. Hein. Et de réclamer précisément sa part d'héritage comme un droit, alors que précisément c'est un don. Il paraît maintenant que quand les gens reçoivent un héritage, me disent les notaires, ils font un voyage. Alors que normalement, un héritage, c'est un dépôt. C'est précisément pas une propriété. Enfin bon, dans un monde régi par des dures nécessités économiques, on comprendrait bien qu'il puisse en aller autrement. Mais voilà, donc la faute de l'homme et de la femme, c'est bel et bien, me semble-t-il, de vouloir s'approprier. Donc, pour le coup, la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire sans s'en rapporter à la confiance. sans s'en rapporter à la confiance en celui qui a émis la loi. Et évidemment, d'ailleurs, cette connaissance du bien et du mal, on peut discuter qu'elle soit vraiment une prérogative divine, car vous savez qu'on peut se demander dans quelle mesure Dieu connaît le mal. Et donc, l'homme veut en savoir plus que Dieu quand il veut connaître le bien et le mal. Car manifestement, Dieu vit que cela était bon, il ne vaut pas le mal. Et puis d'ailleurs, il ne vaut aucun mal, par exemple, dans le fait que l'homme soit nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que c'était mal d'être nu? En plus, la feuille de figuier, ça râpe. Et donc, c'est une punition immanente. Et donc, peut-être même, l'homme et la femme vont-ils en savoir plus que Dieu, car ils vont savoir ce que Dieu ne sait pas, le mal. Ils vont voir ce que Dieu ne voit pas, le mal. Et c'est pour ça que, tant qu'ils se regardent dans le regard de Dieu, tant qu'elle se regarde dans le regard de Dieu, la créature se voit belle. Dieu vit que cela était bon. C'est dès qu'elle cesse de se regarder dans le regard de Dieu qu'elle trouve à redire, qu'elle voit qu'elle est nue, qu'elle est disgracieuse, maladroite, etc. Et donc, devant son miroir, chacun trouve à redire au Créateur. Alors que s'il se regardait dans les yeux du Créateur, il se verrait bon et beau. Et voilà que l'arbre a tenu sa promesse, le serpent a tenu sa promesse, Dieu a tenu sa promesse, Adam et l'homme et la femme, l'homme et la femme ont la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que ils ont la connaissance sans l'amour. C'est à peu près notre lot à nous, d'avoir la séparation du connaître et de l'aimer, c'est la grande malédiction. Et dans la grâce du premier matin, ce qui est plein, c'est justement l'union du connaître et de l'aimer. Ah, si nous pouvions regarder avec une telle pureté, une telle justesse, comme une sorte de prince Michkine permanent, regarder les autres de telle manière que coïncident l'aimer et le connaître. D'ailleurs, comme dans les propos bibliques, quand on dit que l'homme connut la femme, etc. Ainsi, on le sait, les conséquences de la transgression arrivent en cascade. C'est-à-dire que, premièrement, il y a la rupture du lien avec Dieu. J'insiste sur un point. C'est que c'est l'homme qui se cache, c'est pas Dieu. Je ne m'énerve pas, mais j'avoue être toujours exaspéré quand on nous dit que Dieu se cache pour respecter notre liberté. Je me dis, mais s'il faut qu'il se cache pour respecter notre liberté, il vaut mieux qu'il n'existe pas. Au moins, comme ça, je suis tranquille. Si j'attends de quelqu'un qu'il se cache pour respecter ma liberté, c'est qu'il me gêne. Je ne vais pas dire à quelqu'un, tu ne peux pas te pousser un peu, s'il te plaît, là, que je sois plus libre. Enfin, si, je peux le dire, je l'ai dit à tous mes voisins, mais j'essaie de ne pas le dire à ma femme, par exemple. Non. Dieu nous est caché parce que nous nous cachons à lui. Et être sauvé, c'est précisément être en mesure d'être sous le regard de Dieu, sans avoir besoin de se cacher. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur. Qui dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur », c'est le pécheur qui souhaiterait que Dieu soit un peu plus loin. Parce qu'il est pécheur. Mais si je suis dans la confiance, dans la pleine acceptation de la lumière du regard, je peux m'avancer comme la pécheresse en pleine lumière. La pécheresse s'avance en pleine lumière. Elle ne dit pas « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur ». Et lorsque le Christ dit « Lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé », ce n'est pas le moment de ricaner en se disant qu'une prostituée a beaucoup aimé. C'est que traverser la place publique en pleine lumière avec son péché, c'est ça, vraiment aimer. Et sans précisément chercher à se façonner un personnage, à le dissimuler, à s'avancer masqué. Et donc, l'homme sauvé, c'est celui qui se voit beau dans le regard de Dieu, qui se voit beau dans le regard de celui qu'il aime. D'ailleurs, c'est une banalité terrible que je dis là, parce que si nous nous regardions par les yeux de ceux qui nous aiment, nous nous verrions beaux. Même moi. Vous vous rendez compte ? Mais nous ne nous regardons pas par les yeux, nous nous regardons dans un miroir, donc on n'est pas content. Et le... Donc, il faudrait une civilisation. J'ai toujours rêvé, mais bon, je mourrais sans que ce rêve soit réalisé, d'une civilisation sans miroir. Mais c'est assez difficile. Sans images, sans photos, sans captation de sa propre identité. Et à ce moment-là, je vivrais dans un pur élan dans le regard de l'autre. Bon. En tout cas, rupture avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui se cache, c'est l'homme. Et Dieu ne se révèle qu'à proportion où je me découvre, comme dans les westerns. Et comme dans toute relation humaine, au fond. Donc c'est la logique de l'aveu. C'est... Deuxième rupture, évidemment, la rupture avec l'autre, qui est manifestée là par l'apparition du lien, de la sexualité et de la violence, hein. L'accouchement dans la douleur, l'homme dominera la femme. Donc jusqu'à présent, l'homme dominait les animaux, dominait les poissons, dominait et les nommait. Et voilà que l'homme va dominer la femme et même il va la nommer. Première chose, il va la nommer. Il a nommé les poissons, il a nommé les trucs. Et première conséquence, il va nommer la femme. Donc c'est une espèce de prolongation d'acte de domination, encore qu'il faille revenir là-dessus. Mais donc... Le lien de la sexualité et de la violence est précisément la conséquence de la séparation de l'aimer et du connaître et apparaît donc comme la conséquence du péché. Évidemment, j'espère qu'il n'y a personne ici dans cette pièce qui pense que la sexualité est le péché originel. Il y avait que Zola pour croire ça. Adam et Ève n'ont pas péché parce qu'ils ont copulé. Peut-être s'unissait-il dans le jardin. Et Thomas d'Aquin nous dit que si l'homme et la femme s'unissent charnellement dans le jardin, ils jouissent d'un plaisir bien plus entier que les hommes sortis du jardin que nous sommes. C'est-à-dire la jouissance d'Adam et Ève est parfaite. Relisez Thomas d'Aquin. Alors que, évidemment, la jouissance des hommes sortis du jardin est faite de violence, elle est douloureuse, elle est l'objet de combats incessants, d'humiliations de toutes sortes. On ne va pas s'en peindre le tableau. Séparation d'avec Dieu, séparation d'avec l'autre, séparation d'avec soi, qui est le vêtement. Donc séparation du corps, perçu comme honteux, comme vil, et séparation avec le monde sous la forme du travail. La sueur du front, etc. Et donc l'homme qui a été posté dans le jardin comme berger et gardien, voilà que son rapport à la nature va devenir marqué par l'hostilité, la dureté des choses, la sueur, le travail militant et décourageant. Rupture avec Dieu, rupture avec soi, rupture avec l'autre, rupture avec le cosmos, qui sont toutes marquées donc par l'éviction du jardin. Toutefois, ce texte qui s'ouvre sur une contemplation, ce texte qui s'ouvre sur un émerveillement, se referme aussi quand même sur une promesse. Parce que si Adam nomme sa femme Ève, donc ce qui signifie la vivante, c'est en quelque sorte parce que la séparation de l'arbre de vie va être réparée par la fécondité, par le don de la vie, par la femme qui est au fond l'arbre de vie, un nouvel arbre de vie, de substitution en quelque sorte. De même que le travail est aussi une certaine manière de suppléer à l'altération du cosmos et donc une autre manière de participer à la création. C'est un des points sur lesquels nous reviendrons sans doute à travers les différentes figures que nous évoquerons. La Bible, qui est un livre de violence, un livre terrible, de haut en couleur et de fracas et d'armes, ne se referme jamais sans quelque espérance. Et c'est pourquoi la perspective chrétienne n'est jamais une perspective mythique ni tragique. Parce que le dernier mot ne peut pas être à la tragédie. Si altérée, si douloureuse que soit la condition humaine, l'espérance est toujours là. Et voilà pourquoi, si la Bible commence par un jardin, elle finit, vous le savez, par la promesse d'une ville, Jérusalem céleste. Il ne s'agit pas de retourner à l'âge d'or. Il ne s'agit pas de revenir au jardin primitif. Si quelqu'un vous dit que c'est un mythe de l'âge d'or, vous lui cassez la figure, puis après vous lui expliquez que dans la perspective biblique, on n'est pas dans le paganisme où il s'agirait de revenir, de faire retour à un âge de prospérité, mais non, ça sera la Jérusalem céleste. Or, la Jérusalem céleste, vous savez, c'est une ville décrite donc dans l'Apocalypse qui a la particularité de n'avoir pas de temple. Donc, c'est comme le jardin que Dieu habite. D'ailleurs, au centre de cette Jérusalem céleste, ce n'est pas un temple qu'il y a, c'est un jardin. Et donc, c'est un programme à la Alphonse Allais disant qu'il faudrait construire les villes à la campagne. L'aboutissement de cette espérance, c'est précisément donc le lieu humain par excellence qu'est la ville. Le lieu pour l'homme, le lieu par l'homme qu'est la ville, comme écrin à cet autre lieu pour l'homme qu'est le jardin. Et c'est là que l'on peut entrevoir comment toute cette histoire que nous allons parcourir au cours de l'année, j'espère, est l'histoire d'une aventure dans laquelle les hommes aussi sont conduits à devenir coopérateurs de leur salut.